Chapitre 5. Seconde visite de Maggie. Cette dernière rupture entre les deux jeunes gens ne fut pas facile à raccommoder, et pendant quelque temps ils ne se parlèrent que lorsque cela était indispensable. L'opposition naturelle entre des tempéraments si contraires rendait facile le passage du ressentiment à la haine, et chez Philippe ce passage paraissait presque franchi. Il n'y avait point de méchanceté dans son caractère, mais sa susceptibilité le rendait capable d'un violent sentiment de répulsion. Le bœuf, nous pouvons l'affirmer sur l'autorité d'un grand auteur classique, n'attaque pas avec ses dents, et Tom était un excellent garçon tenant un peu du bœuf. Cependant, son attaque contre Philippe avait été une morsure profonde sur le point le plus sensible, comme s'il l'avait choisi avec la haine la plus envenimée. Tom pensait que cette querelle devait se terminer comme toutes les précédentes, car s'il n'avait pas encore exprimé hautement son opinion à Philippe sur le procureur Wakeham, elle était si vivace en lui qu'il ne lui semblait pas que de l'énoncer fît une grande différence vis-à-vis d'un camarade qu'il ne pouvait ni aimer ni haïr. Et il trouvait avoir bien le droit de parler ainsi quand Philippe l'avait traité avec arrogance en lui lançant de grossières épithètes. Mais, apercevant que ses premières avances n'étaient pas reçues, il retomba dans les dispositions les moins favorables à l'égard de Philippe, et résolut de ne plus avoir recours à lui, soit pour son dessein, soit pour ses exercices. Ils étaient tout juste assez polis l'un envers l'autre pour empêcher que leur état d'hostilité ne fût remarqué par M. Stelling, lequel y aurait mis bon ordre. Lorsque Maggie vint, elle ne put s'empêcher de regarder avec beaucoup d'intérêt le nouveau pensionnaire, quoique ce fût le fils de ce méchant procureur Wakeham qui mettait son père, M. Tulliver, si fort en colère. Elle était arrivée pendant les heures d'étude et s'était assise tandis que Philippe récitait ses leçons à M. Stelling. Tom, quelques semaines avant, lui avait fait savoir que Philippe racontait des histoires innombrables, mais pas de stupides histoires comme les siennes. Elle fut convaincue par ses propres observations qu'il était fort instruit. Elle espéra qu'il penserait de même d'elle, quand elle viendrait à lui parler. De plus, le bon cœur de Maggie l'apportait vers les êtres disgraciés. Elle préférait les agneaux qui avaient le cou tordu à ceux qui étaient forts, parce qu'il lui semblait que ceux-ci avaient moins besoin de caresses et qu'elle aimait particulièrement ceux qui les réclamaient. Elle chérissait Tom, mais elle désirait souvent qu'il appréciât davantage son amour. « Je trouve que Philip Wakeham a l'air d'un gentil garçon, Tom, » dit-elle, quand ils passèrent ensemble de la classe au jardin pour attendre l'heure du dîner. « Il n'a pu choisir son père, sais-tu, et j'ai lu des histoires d'hommes très méchants qui avaient de bons fils, comme de bons parents qui avaient de méchants enfants. Et si Philip est bon, je pense que nous devons regretter pour lui que son père ne le soit pas. Tu l'aimes, n'est-ce pas ?»« Oh, c'est un singulier individu, » dit Tom brièvement. « Et il est aussi rechigné que possible avec moi, parce que je lui ai dit que son père est un coquin. Et j'avais bien le droit de le lui dire, puisque c'est la vérité, et que c'est lui qui a commencé en me donnant des surnoms. Mais reste seul un moment, Maggie, veux-tu? Je veux arranger quelque chose là-haut. »« Est-ce que je ne peux pas y aller aussi ?» dit Maggie, qui, dans ce premier jour de réunion, aimait l'ombre même de Tom. « Non, c'est quelque chose que je te dirai plus tard, » répondit Tom en s'évadant. Pendant cet après-midi, les deux garçons s'occupèrent de leurs livres dans la chambre d'études, préparant leurs leçons du lendemain, afin d'avoir congé le soir en l'honneur de l'arrivée de Maggie. Tom était penché sur sa grammaire latine, remuant les lèvres sans bruit, comme un catholique strict, mais impatient, qui répète la suite de ses patenôtres. Et Philippe, à l'autre bout de la chambre, était occupé de deux volumes, avec un air si satisfait qu'il excita la curiosité de Maggie. Il ne paraissait pas du tout étudier une leçon. Elle était assise sur une chaise basse à distance égale des deux écoliers, examinant tantôt l'un, tantôt l'autre. Et Philippe, regardant une fois du côté de la cheminée, rencontra ses yeux noirs inquisiteurs fixés sur lui. Il pensa que cette sœur de Tom Tulliver avait l'air d'une gentille petite créature, bien différente de son frère. Il aurait voulu avoir une petite sœur. Comment se faisait-il que ses yeux noirs lui rappelassent des princesses métamorphosées en animaux? Je crois que c'est parce que les yeux étaient pleins d'intelligence et de tendre affection encore ignorée. « Allons, Maggie, » dit enfin Tom en fermant ses livres et les mettant de côté avec énergie et résolution. « J'ai fini mes leçons à présent, monte avec moi. »« Qu'est-ce que c'est ?» dit Maggie quand ils furent hors de la classe, un soupçon traversant son esprit au souvenir de la visite préliminaire de Tom en haut. « Est-ce un tour que tu veux peut-être me jouer ?»« Non, non, Maggie, » dit Tom du ton le plus persuasif, « c'est quelque chose que tu aimeras tant. » Il lui passa le bras autour du cou, et elle mit le sien autour de la taille de Tom. Ainsi unis, ils montèrent l'escalier. « Je t'avertis, Maggie, qu'il ne faut le dire à personne. Autrement, j'attraperai 50 lignes. »« Est-ce en vie ?» dit Maggie, dont l'imagination s'était arrêtée pour le moment, à l'idée que Tom avait un furet en secret. « Oh, je ne te le dirai pas. À présent, va dans ce coin et cache ton visage, pendant que je fais mes préparatifs, » ajouta-t-il, en fermant derrière lui la porte de la chambre à coucher. « Je te dirai quand tu pourras te retourner. »« Tu ne crieras pas, tu sais. »« Oh, si tu me fais peur, je crierai, » dit Maggie, devenant sérieuse. « Tu n'auras pas peur, petite nigaude, » dit Tom. « Va te cacher la figure et souviens-toi de ne pas chercher à voir par tricherie. »« Oh, cela va sentir, » répondit Maggie dédaigneusement. Et elle cacha son visage contre l'oreiller en personne consciencieuse. Mais Tom la regarda prudemment en allant vers l'armoire. Puis il entra dans ce petit espace et ferma presque la porte. Maggie tenait son visage caché, mais ce n'était plus par principe, car dans cette attitude portant à rêver, elle oublia bientôt où elle était et ses pensées étaient occupées du pauvre garçon contrefait et si instruit quand Tom lui cria « À présent, Maggie !» Une longue préméditation et des arrangements à effet concertés d'avance avait seul pu aider Tom à produire une figure aussi remarquable que celle qu'il offrit à Maggie, quand elle se retourna pour le voir. L'aspect pacifique d'un visage aux yeux gris-bleus, aux sourcils de teinte claire, aux joues roses et arrondies, se refusait à paraître redoutable. Quels que fussent d'ailleurs les plissements de front, Philippe lui avait parlé un jour d'un homme ayant le front en fer à cheval, et Tom s'exerçait à s'en faire un semblable. Il s'était vu forcé d'avoir recours à l'infaillible ressource du bouchon brûlé pour se faire des sourcils épais se rencontrant au-dessus du nez et des moustaches se réunissant à une barbe moins soigneusement tracée. Il avait roulé un mouchoir rouge autour de son bonnet de drap pour simuler un turban et mis son cache-nez rouge en guise d'écharpe. Quantité de rouge suffisante qui, jointe à l'effrayante expression de résolution avec laquelle il tenait son sabre, la pointe appuyée par terre, devait suffire pour donner une idée approximative de son caractère féroce et sanguinaire. Maggie parut déconcertée au premier instant, et Tom en éprouva une vive jouissance. Mais l'instant après, elle se prit à rire en battant des mains et dit « Oh Tom, tu t'es arrangé comme Barbe Bleue à la foire !» Il était clair qu'elle n'avait pas été impressionnée par la vue du sabre qui n'était pas dégainé. Son esprit léger avait besoin d'être amené plus directement à l'idée du terrible, et Tom prépara son coup de maître. Fronçant le sourcil avec un redoublement d'intention, sinon de crispation, il sortit avec précaution la lame du fourreau et en présenta la pointe nue à Maggie. « Oh, Tom, non, s'il te plaît !» s'écria-t-elle, d'un ton de frayeur contenu, se sauvant au coin opposé de la chambre. « Je crierai, je suis sûr que je crierai !» « Oh, arrête, que je voudrais n'être pas monté !» Les coins de bouche de Tom montrèrent un sourire de satisfaction qui fut immédiatement réprimé, comme incompatible avec la sévérité d'un grand guerrier. Il déposa doucement le fourreau par terre pour ne pas faire de bruit et dit alors d'un air sévère « Je suis le duc de Wellington. Marche, » dit-il en se posant en avant avec la jambe droite un peu ployée et présentant toujours la pointe du sabre à Maggie, qui, tremblante et les larmes aux yeux, monta sur le lit comme le seul moyen de mettre plus d'espace entre elle et son frère. Tom, heureux d'avoir ce spectateur de ses prouesses militaires, lors même que ce n'était que Maggie, commença, en employant tout ce qu'il avait de force, à offrir un spectacle d'attaque et de parade, comme on devait nécessairement l'attendre du duc de Wellington. « Tom, je ne peux pas le supporter, je veux crier, » dit Maggie au premier mouvement du sabre. « Tu te feras mal, tu te couperas la tête. » « Une, deux, » dit Tom résolument, quoiqu'à deux, son poignet tremblât un peu. Trois se vint plus lentement, et en même temps le sabre redescendit, et Maggie poussa un cri perçant. Le sabre était tombé, le tranchant sur le pied de Tom, et un instant après, lui-même tomba aussi. Maggie sauta à bas du lit, en criant toujours, et immédiatement il y eut un mouvement de pas vers la chambre. M. Stelling fut le premier à entrer, venant de son cabinet de travail en haut. Il trouva les deux enfants sur le plancher. Tom était évanoui, et Maggie le secouait par le col de sa veste, en criant et les yeux égarés. Elle le croyait mort, la pauvre enfant. Et cependant elle le secouait encore, comme si cela pouvait le rendre à la vie. Une minute plus tard, elle sanglotait de joie, parce que Tom avait rouvert les yeux. Elle ne pouvait pas encore s'affliger de ce qu'il s'était blessé le pied. Il lui semblait que tout son bonheur consistait à ce qu'il fût vivant.